7h42 en temps universel sur RFI, tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, en Ligue 1 française, en conclusion de la 22e journée, un Rennes-Lille qui devrait être très suivi au Sénégal.
Oui, hier les favoris ont gagné, Paris a dominé Toulouse 1-0, Marseille l'emporte 5-1 sur Saint-Etienne et Monaco a cartonné en s'imposant 7-1 sur Nantes. Et puis ce dimanche, Rennes accueille donc Lille pour le troisième match d'Habib Bey sur le banc rennais. Après deux victoires, l'ancien Gaïndé a remonté Rennes à la 12e place du classement. Des débuts réussis qui suscitent un grand engouement au pays du technicien Warren Johnson.
Stade Rennais, ouais, parce que c'est Habib Bey, c'est un compatriote, on le suit partout.
On est certes loin de la passion autour de l'Olympique de Marseille ou du Paris Saint-Germain, mais le Stade Rennais voit sa cote de popularité grimper au Sénégal depuis l'arrivée d'Habib Bey sur le banc de l'équipe première. À Dakar comme ailleurs dans le pays, Rennes a conquis les cœurs.
En tant que Sénégalais, je le soutiens à 100%. Il a apporté un plus parce que Rennes n'était pas bien. Dès son arrivée, ils ont enchaîné deux victoires.
Je pense que je vais désormais suivre vraiment cette équipe et le supporter à fond.
Désormais, chaque sortie des Rennais est scrutée à la loupe par les Sénégalais. Et les débuts en fanfare de l'ancien défenseur des Lions façonnent davantage son image et suscitent une grande euphorie dans les médias et sur les réseaux sociaux. Papou Mar Diop, coach dans une académie de foot à Dakar, voit grand pour le technicien sénégalais.
Au Red Star, on le suivait parce avec ses idées, même sur les chaînes qu'il faisait consultant, il était pertinent dans ses interventions. S'il arrive à transmettre ça aux joueurs, il fera du bon boulot et on le souhaite tout le bonheur qu'il réussisse sa mission là-bas.
Pour rappel, avant l'arrivée d'Habib Bey, le Stade Rennais restait sur une série de 5 défaites consécutives. Une troisième victoire de suite ce dimanche renforcerait encore l'engouement autour du technicien sénégalais, d'autant plus face à Lille qui est d'un autre calibre que Strasbourg et Saint-Etienne. Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
Rennes-Lille, coup d'envoi 19h45, temps universel, un dimanche de Ligue 1 qui comptera en tout cas en tout 5 matchs et qui débutera à 14h, temps universel, avec Montpellier-Lyon.
En Angleterre, et si la première ligue tenait une nouvelle star égyptienne?
Pas encore au niveau de Mo Salah, mais Omar Marmouche a marqué les esprits. L'Égyptien a débloqué son compteur avec Manchester City en signant un triplé en moins d'un quart d'heure face à Newcastle. Résultat, un carton, 4-0 dans le cadre de la 25e journée et City pointe au 4e rang de première ligue.
On termine avec le badminton et les championnats d'Afrique qui touchent à leur fin au Cameroun.
Après bientôt une semaine de compétition et comme d'habitude, l'Égypte, traditionnelle place forte du continent, semble bien partie pour décrocher de nouvelles médailles. 4 représentants égyptiens figurent dans les différents derniers carrés. L'Algérie, elle, visera également des podiums qui s'ajouteraient au titre mixte par équipe. Joël Wedem.
Mamery Kossela, le capitaine de l'équipe d'Algérie, est un joueur heureux. Son pays représentera l'Afrique au prochain championnat du monde en équipe mixte.
Là, on est content de remporter cette première victoire en équipe mixte. C'est la première victoire pour l'équipe d'Algérie dans cette épreuve. On a remporté plusieurs fois l'épreuve masculine, mais jamais équipe mixte. On n'avait pas fait mieux qu'une médaille d'argent en finale contre l'Égypte. On est qualifié en championnat du monde au mois d'avril ou mai en Chine. Ça va être dur, voilà, parce que c'est encore un autre niveau.
Le Mauricien Alexandre Bongou considère que c'est l'expérience qui a permis à l'Algérie d'être championne d'Afrique en équipe mixte.
L'Algérie, ils ont une grosse équipe, une équipe complète, on va dire, où les garçons et les filles sont très fortes. Alors que nous, nous sommes encore jeunes et nous avons encore beaucoup à apprendre.
Nourine Salim, le coach de l'Algérie, reconnaît que son équipe est au-dessus des autres formations.
C'est une équipe très expérimentée. La plupart des joueurs ont fait plusieurs championnats d'Afrique dans leur carrière. Ce n'est pas des jeunes joueurs. On a une moyenne d'âge de 24 ans chez les filles et beaucoup plus d'expérience chez les garçons. On a nos joueurs qui évoluent aussi au championnat français. C'est un niveau un peu plus supérieur.
On ne sera donc pas surpris que l'Algérie remporte encore plusieurs titres individuels ce dimanche. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Et donc ce dimanche, dernier jour de ces championnats d'Afrique de badminton avec les demi-finales et les finales des simples masculins et féminins ainsi que les doubles.
Merci Antoine Grenier, bonne journée.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et l'info ce matin, c'est ce nouvel échange hier entre Israël et le Hamas. 3 otages israéliens libérés contre 369 Palestiniens. Et une photo qui choque, celle de Palestiniens sur le point d'être libérés à genoux et vêtus d'un sweatshirt, arborant l'étoile de David et une inscription en arabe, ni oubli, ni pardon. Dans ce contexte, Marco Rubio est arrivé en Israël où il va rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans la journée, alors qu'une cargaison d'armes lourdes américaines est arrivée en Israël. Israël cette nuit. Le chef de la diplomatie américaine qui s'est entretenu hier avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, prolongeant le coup de fil de cette semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine, Marco Rubio réaffirme l'engagement des États-Unis à mettre fin à la guerre en Ukraine. D'autres hauts responsables de l'administration américaine vont rencontrer en Arabie Saoudite des négociateurs russes et ukrainiens, annonce Washington. Les Européens ne sont pas directement impliqués dans ces discussions. Le chef de l'OTAN et la Pologne annoncent une réunion européenne à Paris demain. À la une également, la suite aujourd'hui du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Hier, c'est le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf, qui a été élu à la tête de la commission de l'UA. Il commencera le mois prochain son mandat de 4 ans. Sommet de l'UA avec le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo en toile de fond. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelle à éviter à tout prix une escalade régionale. La première ministre congolaise alerte sur la situation humanitaire très précaire. Le groupe M23, soutenu par le Rwanda, a été aperçu dans Bukavu dès vendredi, mais ne revendique pas la prise de la capitale du Sud Kivu. Emmanuel Macron appelle à un cessez-le-feu immédiat et au retrait du M23.
RFI Matin.
C'était cette semaine, et on vous en a beaucoup parlé sur RFI, le sommet mondial pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Des discussions entre dirigeants, mais aussi l'occasion pour les acteurs de la tech de réfléchir aux questions que pose l'avènement de l'IA dans nos vies. L'une d'entre elles, c'est la cybersécurité. Et mardi, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information organisait un exercice de crise pour imaginer la réponse aux nouvelles attaques que l'intelligence artificielle permettra demain, en donnant des moyens sans précédent à ceux qui les commettent. Il faut s'y préparer, car même sans IA, la cybersécurité est déjà aujourd'hui un enjeu mondial. Dans notre tour du monde des correspondants ce matin, regard sur trois pays où cette question est centrale. En Corée du Sud d'abord, où la cyberguerre fait partie du quotidien, alors que le voisin nord-coréen multiplie les attaques informatiques aussi bien sur les institutions publiques que privées. Face à cette menace régulière, la Corée du Sud se prépare, c'est Lio Fioretti.
1,5 million d'attaques informatiques chaque jour, une véritable guerre invisible que livre la Corée du Nord à son voisin au sud. De l'espionnage militaire au vol bancaire, en passant par la mise à l'arrêt de certains services, les pirates informatiques nord-coréens ratissent large et sont même parvenus à infiltrer les téléphones portables de l'entourage du président sud-coréen l'an dernier. À Séoul, l'Institut pour la stratégie de sécurité nationale œuvre à former les fonctionnaires mais aussi les entreprises privées à se protéger au mieux des attaques informatiques. L'objectif et d'être prêt à se défendre à tous les niveaux de la société. Une défense préparée, mais la Corée du Sud travaille également à la riposte. Une base de 100 000 réservistes de l'armée formés en cybersécurité sera déployée à partir de 2025 pour répondre en cas d'attaque majeure. Un conflit rendu d'autant plus difficile par la nécessité de s'actualiser tous les jours face aux progrès technologiques de part et d'autre de la frontière coréenne.
C'est Lio Fioretti à Séoul, et cap à présent sur un pays devenu expert aussi bien en cybersécurité qu'en cyberespionnage. Israël, très tourné vers la technologie, notamment dans le domaine militaire. Israël, où la guerre qui dure depuis 16 mois montre également les limites de ce modèle, Michel Paul.
Attaquée par surprise le 7 octobre 2023, la défense israélienne reposait en grande partie sur la cybersécurité, et c'est un peu l'arroseur arrosé. Mais la guerre qui a suivi a paradoxalement relancé la demande dans le monde pour des systèmes made in Israel, utilisés dans ce conflit très high-tech, à commencer par les systèmes d'interception de missiles dont l'efficacité a été prouvée. Toujours sur le devant de la scène, l'unité 8200, les commandos cyber du renseignement militaire israélien. Ils avaient détecté les prémices de l'attaque, mais en avaient donné une interprétation fallacieuse. Il y a eu aussi des dérapages, comme le logiciel espion Pegasus de la société NSO, dont les dommages se font encore ressentir. Mais en marge de la guerre, les startups israéliennes dédiées à la cybersécurité, notamment dans le domaine financier, continuent de fleurir.
Michel Paul à Jérusalem. Et puis, tout autre exemple, en Estonie, un pays tellement numérisé qu'il en a hérité un surnom, e-Estonia. La lutte contre la cybercriminalité y est devenue une priorité ces 20 dernières années, notamment en raison de sa proximité géographique avec la Russie, Marielle Vituro.
Depuis la cyberattaque de 2007, quand la Russie a bloqué banques en ligne et services administratifs après que l'Estonie a déplacé un monument soviétique, le pays balte a fait de la cybersécurité sa spécialité. Dès l'année suivante, le centre d'excellence l'alliance de l'OTAN s'installer à Tallinn. Des exercices grandeur nature entre alliés sont organisés pour apprendre à réagir. Qui dit société en ligne dit aussi être exposé au risque. Selon le rapport de l'autorité des systèmes d'information, 2024 a été une année record en Estonie avec plus de 6000 incidents avec un impact concret. Des écoles ont été ciblées. Pour protéger les services administratifs qui sont tous en ligne, le gouvernement utilise la technologie de la blockchain qui permet d'authentifier les données de manière mathématique et a ouvert il y a 10 ans une ambassade numérique au Luxembourg pour protéger les informations de l'État. Mais la cybersécurité est une affaire de formation continue. L'école est le premier lieu où apprendre et des sites publics existent pour tester ses connaissances.
Marielle Vituro pour notre tour du monde des correspondants que vous retrouvez à tout moment sur RFI.fr. 8h52 à Paris. Et dans l'Afrique en marche ce matin, une PME sénégalaise qui depuis 2010 fabrique des couches culottes et des serviettes hygiéniques recyclables. Deux produits qu'on trouve plus souvent sous leur forme jetable et à des prix élevés. L'entreprise Happy Afrique s'attaque ainsi à trois problèmes en même temps. L'hygiène des enfants et des femmes, le respect de l'environnement et le pouvoir d'achat parfois faible des mamans. Frédéric Gara.
En 2010, Marie Nying, à la naissance de ses enfants, s'interroge sur l'usage des couches culottes puis des serviettes hygiéniques pour ses filles. Des produits chers, quasi impossibles à recycler au Sénégal. Mais sur place, il y a du coton, il y a du wax et surtout, il y a plein d'idées. Avec son mari, Abdoulaye, ils vont donc lancer une gamme de produits Made in Sénégal qui réunit trois critères essentiels à leurs yeux.
C'est vrai que nous, nos motivations pour créer Happy Afrique, c'était vraiment participer à la réduction des déchets, créer des emplois décents pour les femmes au Sénégal et participer aussi à préserver la santé.
Fabriqués dans leur atelier de Ngaparou, qui est passé de 4 à 30 employés en 15 ans, les protections hygiéniques d'Happy Afrique sont réutilisables. De plus, leur usage répond à plusieurs problématiques au Sénégal.
Il y a le camp, dira-t-on. Est-ce que la fille est enceinte? Est-ce qu'elle n'est pas enceinte? Est-ce qu'elle a des relations hors mariage ou pas? Et il y a aussi tout le mysticisme. Et on y pense rarement, mais en fait, on ne veut pas que des gens qui nous veuillent du mal puissent trouver notre sang des règles. C'est pour ça que les filles vont laver à fond la serviette jetable avant de la jeter pour que personne ne puisse utiliser le sang des règles pour faire de la magie avec. En fait, le problème des couches et des serviettes hygiéniques, c'est que c'est un besoin absolu. C'est pas une option. On peut pas décider d'en avoir besoin ou pas. Et c'est des produits en version jetable qui sont du consommable, donc qui sont à racheter tout le temps. Donc effectivement, ça représente un poids considérable sur les budgets des jeunes filles, des femmes et des familles avec les bébés. Et en plus, ça crée des gros problèmes de pollution dans un pays où il n'y a pas vraiment de solution de gestion des déchets.
Alors, la serviette hygiénique réutilisable Happy Afrique, elle se présente comme ceci, avec trois éléments.
Le site internet de la marque propose des tutoriels en français et en wolof pour les usagers. Kiné Riquet est une cliente sénégalaise convaincue de l'utilité d'un tel produit recyclable sur le marché.
Ah non, mais complètement, complètement. Moi, je pense que c'est juste, il faut communiquer un peu plus, que les Sénégalais soient plus au courant de l'existence de ces produits et à des prix qui restent quand même abordables. Parce que quand on calcule le coût des paquets tous les mois, tout au long de l'année, moi je pense que ça reste quand même très intéressant.
Dans sa vie, une femme utilisera en moyenne 8000 protections périodiques, ce qui donnera lieu à une tonne de déchets. Les serviettes hygiéniques recyclables sont donc une idée louable à développer, selon le gynécologue Abdoulaye Diop.
Le gros intérêt, c'est d'avoir un intérêt écologique. Utiliser des serviettes recyclables permet justement d'économiser des centaines de tonnes de serviettes hygiéniques qui vont se balader dans la nature. Le deuxième intérêt, c'est évidemment l'intérêt médical. Il y a ce que nous appelons la précarité menstruelle, les difficultés que beaucoup de jeunes filles ont, surtout dans le milieu rural, à avoir des serviettes hygiéniques de bonne qualité. Lorsque des bouts de tissu sont utilisés pour recueillir le sang des règles, ou lorsqu'il y a des problèmes de disponibilité de l'eau, ça crée beaucoup de problèmes. Et donc, les serviettes hygiéniques lavables viennent un peu répondre à ça et apporter une alternative aussi bien écologique, médicale que durable dans le temps.
Différentes études évaluent à 2500 euros, 1 600 000 francs CFA, le coût total de l'usage de serviettes hygiéniques dans la vie d'une femme. Le prix des serviettes réutilisables en coton revient lui à 450 euros, 295 000 francs CFA pour la même période, soit presque 6 fois moins.
Frédéric Gara pour l'Afrique en marche. Et sur RFI, presque 8h en temps universel, la fin d'RFI Matin. En musique, comme chaque jour, avec deux artistes qu'on ne présente plus en Europe, où leurs tournées sont à guichet fermé. Le belge Stromae et la française Pomme sur le titre « Ma meilleure ennemie ».
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi, fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Mais si tu cherches encore ma voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me plaît?
Et Pomme, ma meilleure ennemie, c'est dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur musique.rfi.fr. Et voilà, RFI Matin se termine pour aujourd'hui. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation. La matinale d'RFI revient demain à partir de 5h, temps universel. Et d'ici là, l'info continue. Bon dimanche sur la radio du monde.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Moussa Roubaskité, né sous un piano, titre de son autobiographie. L'histoire d'une surdouée de l'ex-URSS, devenue soliste internationale franco-lituanienne, amoureuse de Liszt et marraine de la maison Debussy en France. Un seul mot d'ordre, l'excellence.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à 15h10, temps universel et en podcast sur RFI.fr.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.